c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Radio Sans Nous, c'est l'émission du midi. Au programme ce midi, une conférence gesticulée sur l'école, la lecture d'un livre Chemin et un extrait de Radio Rageuse, l'heure du thé. Voilà. Et si vous nous écrivez d'ici là, peut-être une émission La Criée. Et l'émission pourra continuer soit sur la lecture d'histoire, soit sur une autre émission, soit on se retrouvera ce soir. Bonne écoute. Radio Sans Nous, tous les midis, un extrait de conférences gesticulées ou de bibliothèques humaines, un partage d'expériences, d'histoires individuelles qui rejoint le commun et le collectif et qui nous fait réfléchir.
Et bien voilà, après le projet familial qui va avoir une incidence sur notre engagement, comme on l'a vu, hein. Après le projet familial, on va se prendre rapidement un deuxième projet dans le coin de l'œil, qui est le projet de l'éducation nationale. Voilà le deuxième tableau, le tableau sur l'école. J'ai aimé, j'ai pas aimé.
Alors en fait, l'école pour moi, ça a été vraiment un endroit de contraintes et de punitions. Surtout pendant toute la petite enfance, toute l'école primaire. Moi, j'allais dans une école... qui était gérée par des religieuses et puis des personnes laïques qui étaient là. Et en fait, c'était l'école des pauvres. Cette école s'appelait Sainte-Madeleine. Et elle était, en fait, installée dans les écuries de l'école de la retraite, qui était donc l'école où allaient les gens qui avaient de l'argent, en fait. Et dans cette école-là, c'était très compliqué quand j'étais toute petite parce que j'ai subi différentes choses... difficile de la part des adultes qui accompagnaient avec des choses qui seraient un peu longues à raconter là maintenant. Par contre, quand je suis un tout petit peu plus vieille et que j'ai 7 ans, je suis donc en 10e. Et à ce moment-là, il y a différentes choses qui se passent dans cette classe. Et il y a une institutrice, une mademoiselle Robert, qui à un moment me voit dans un mouvement récupérer ma règle qu'une... Une élève à côté de moi avait chopé sur ma table et donc je la lui reprends et elle voit juste à ce moment-là mon geste de récupérer l'objet qui m'appartient et que je veux récupérer, la voix que je veux prendre, reprendre. Et à ce moment-là, cette mademoiselle Robert me dit que je n'ai pas à faire ce geste-là et qu'elle va me punir. Alors la punition, je les connais parce que les punitions, il y en a déjà eu pas mal. Et il y en a une, j'ai assez peur en fait de devoir la vivre. C'est un endroit où il y a dans le fond de la classe un placard qui est fermé. Il est dans le mur ce placard et il est fermé par deux portes en bois. Et les portes en bois sont à une certaine hauteur, peut-être 60 cm du sol. Alors quand le placard est ouvert, il y a des étagères avec des livres dessus. Mais dans la partie basse qu'on peut enjamber, on peut y mettre un enfant. Et quand on referme les portes, il fait effectivement tout noir. Et en plus, quand on est enfant, on ne sait pas trop qui habite ce placard, en fait. Et donc, tout un tas de choses assez effrayantes passent par la tête. Il se trouve que ce n'est pas cette punition qui m'a été donnée à ce moment-là. C'est une deuxième punition qui est un peu différente. Et qui est donc le fait qu'on portait obligatoirement dans cette école des sarraux, c'est-à-dire des sortes de blouses à manches longues qu'on attache dans le dos avec une ceinture aussi qu'on attache avec un gros nœud dans le bas des reins. Et ce sarrau, en fait, il nous était remis sur la tête par l'institutrice pour nous mettre aussi dans le noir. Je ne sais pas pourquoi le noir, mais le noir avait beaucoup, beaucoup d'importance. Et donc, on nous ficelait au-dessus du crâne ce fameux sarrau, mais en étant monté en même temps sur une chaise, de manière sur la chaise de notre table, pour pouvoir rester là un moment, c'est-à-dire apprendre un petit peu à d'abord être dans le noir et puis aussi à garder l'équilibre. Et c'était pas que évident de garder l'équilibre à tous les endroits, en fait, à ce moment-là, quand on était enfant.
Alors moi, l'école, ça a été, j'ai plutôt aimé. En tant que fils de prof, en tant que bon fils de prof, du coup, bah, j'avais plutôt les codes. Je comprenais assez facilement. Ouais. En tant que bon fils de prof, j'apprenais assez facilement. Du coup, assez logiquement, je suis devenu, comme la plupart des fils de profs, un délégué d'élèves. Mais quand même, j'étais fils de prof de gauche. Du coup, je me suis retrouvé assiégé dans une commission au lycée qui s'appelait la commission de la vie sociale. Cette commission, elle avait pour objet de décider quelle famille on allait aider financièrement ou pas. Alors dans cette commission-là, on était 5. Il y avait une personne de la direction, généralement, qui était plutôt contre attribuer une aide. Il y avait le CPE, qui était aussi plutôt contre attribuer cette aide. Il y avait l'infirmière, qui ne se positionnait pas. Et il y avait l'assistante sociale, qui était plutôt pour attribuer des aides. Et je me souviens d'un cas, d'une situation qu'on avait à traiter, à acter. Donc c'était une famille qui avait, au début de l'année, déjà obtenu une aide pour payer la cantine. Donc ils avaient eu une certaine somme d'argent qui leur permettait de financer la bouffe pour leur môme qui était au lycée. Et du coup, là, ils demandaient une deuxième aide, vraiment ils abusent, pour financer un voyage scolaire. Souvent, on faisait un petit tour de table, tout le monde donnait son point de vue. Et donc, le CPE prend la parole et exprime son point de vue. Son point de vue, c'était non. Non, on ne va pas leur donner une aide. On leur a déjà donné une. S'ils redemandaient pour la cantine, oui, ok. Mais là, c'est quelque chose de secondaire. C'est qu'un voyage scolaire. Sur le coup, je comprends pas trop la logique, je vois pas. On lui demande de développer. Et en fait, ce que je comprends, c'est que pour lui, il aurait fallu que les personnes, que la famille n'ait pas dépensé tout l'argent pour la bouffe et garder cet argent-là pour payer le voyage scolaire qui n'était pas prévu à l'avance. Et que là, du coup, ils pouvaient demander de l'argent et que maintenant, ils devraient redemander pour la bouffe. Du coup, j'étais là, mais je ne comprends pas cette logique du tout. Je me suis un peu embrouillé, donc je ne sais pas si c'était très clair, mais c'est pas grave. Et du coup, sur ce moment-là, l'assistante sociale, qui était plutôt une alliée, qui des fois même venait me choper en avance, me dire « Ouais, faut que tu viennes, parce qu'autrement, on va encore perdre. » C'était un peu ça. Je suis tellement abasourdi par cette logique que je prends mon petit courage à deux mains, là, du haut de mes 15-16 ans, et je rentre dans le tas, en fait, du CPE en lui démontrant par A plus B qu'en fait, ça ne se tient pas, sa logique. En fait, s'il demande à des gens de mentir, en gros, il aurait fallu faire croire, de mentir à l'institution pour obtenir de l'argent. Je ne comprends pas sa logique de sa place, notamment de représentant de l'institution. Et du coup, ce moment-là, il fait que finalement, l'infirmière se positionne et ils ont eu quand même cet argent-là. Donc, ça m'a fait un petit truc de fierté. Et puis, je crois que ça a construit un peu mon rapport à l'administration et puis à des incohérences et à l'injustice.
Globalement, j'ai plutôt bien aimé l'école. Peut-être aussi parce que j'arrivais pas toute seule. Et à l'école, ce que j'ai quand même préféré, c'est les récrés, les projets théâtre, les sorties de classe, les voyages scolaires, et puis aussi tout un tas de conneries qu'on a fait aux profs. J'ai notamment un assez bon souvenir, qui s'est pour le coup passé en classe et pas en récré, de 5e. En 5e, je faisais anglais, et j'avais un prof d'anglais qu'on n'aimait pas trop, qui avait tendance à nous coller beaucoup de devoirs, et puis à nous prévenir surtout à la dernière minute, et puis on n'avait pas du tout envie de faire ses devoirs. Ce prof, on l'appelait Grosse Fraise, c'était pas très sympa, hein, mais il avait une grosse fraise au milieu du visage, et du coup, on l'appelait Grosse Fraise. Et ce prof, on s'acharnait un peu sur lui quand même déjà, j'avoue. Quand il marchait comme ça dans les couloirs, là, dans les allées de la classe, nous, avec nos stylos plumes, qui étaient à l'époque obligatoires au collège, on lui faisait comme ça des petites traînées dans le dos avec notre stylo plume. On lui faisait aussi, un jour, on avait décidé de passer au stade 2, c'était le coller sur sa chaise. J'en avais toujours rêvé, je crois. Coller un prof sur sa chaise. Bon, par contre, on avait pris une colle de merde, donc on a mis de la colle sur sa chaise à la récré. Vite, on est sorti, on s'est planqué, et puis en fait, il s'assit sur sa chaise, puis ça n'a pas collé. Ça a fait une trace de colle sur son pantalon, c'était déjà ça. Et un jour, qui décide donc de nous coller un devoir, la dernière minute, qu'on n'avait pas du tout envie de faire, on se retrouve entre élèves à la récré, juste avant notre cours d'anglais, et on se dit comment on va faire, on n'a pas du tout envie de faire ce devoir, il y a une partie d'entre nous qui a de toute façon pas révisé et qui ne va pas avoir une bonne note. Et on décide de boycotter le devoir d'anglais. Donc pour beaucoup de devoirs d'anglais, on ne pouvait pas refuser d'entrer en classe. On ne pouvait pas non plus dire au prof qu'on n'avait pas envie de faire le devoir donc, parce qu'il allait probablement nous obliger à le faire. On décide donc de faire comme si on allait faire le devoir d'anglais, de faire tout comme, mais par contre, de mettre que des mauvaises réponses et puis d'écrire comme des cochons sur nos copies et de ne pas mettre notre nom. Comme ça, bah, il y aurait un truc qui serait impossible à noter et puis on n'aurait pas fait le devoir et puis voilà, on aurait sauvé notre coup, quoi. Donc on se met plus ou moins tous d'accord. Vous imaginez bien que tout le monde n'est pas d'accord avec le coup. Il y a là, évidemment un ou deux faillots de service qui ne veulent pas le faire parce que eux, de toute façon, ils ont travaillé et qu'ils vont avoir une bonne note au devoir. Mais c'est pas grave, on va se passer d'eux. On décide donc de rentrer en classe et là commence la cérémonie du devoir. Donc chaque élève fait bien son métier d'élève, comme on dit maintenant. Donc voilà, on prend notre crayon, on prend notre copie, on remplit et tout ça. Et puis bon, le prof, toujours, qui se balade dans les couloirs, comme ça, dans les allées, et puis qui jette un petit coup d'œil comme ça par-dessus votre épaule, donc vous l'avez sûrement fait vous aussi, c'est hyper énervant. Vous faites semblant que ça vous dérange pas, alors qu'en fait, ça vous énerve. Et puis au bout d'un moment, il voit bien qu'il y a un truc qui est bizarre. Il regarde une copie, il regarde une deuxième copie, un troisième devoir, et puis là, il se fait, attends, ils ont mis n'importe quoi, et en plus, ils écrivent comme des cochons. Là, ça commence à monter. Et il y a un des élèves qui avait écrit nom X, prénom Y. Et alors là, ça l'a mis dans une fureur, mais un truc de dingue, quoi. Il est devenu tout rouge, pour le coup, il n'y avait plus que le nez au milieu de la chute, il était tout. Tout était rouge, et il est rentré en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il est sorti de la classe comme une espèce de bombe, et il est parti au bureau de la vie scolaire chercher des surveillants, parce qu'il fallait faire quelque chose pour cette classe qui était complètement ingérable d'enfants de 13 ans. Finalement, le prof n'est pas revenu, c'est les surveillants et surveillantes qui sont venus nous prendre en charge. Je ne sais plus exactement comment s'est terminée cette journée d'école pour nous. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas fait le devoir.
Eh bien, c'était nos trois présentations sur l'école, sur comment on a vécu l'école, est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé. C'est maintenant à votre tour, en tout cas à celles et ceux qui le veulent bien, de venir nous rejoindre et puis de nous dire une petite anecdote sur si vous avez aimé l'école ou pas aimé l'école. C'est la deuxième fois. Prendre le temps de réfléchir, de mettre en forme.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Mais l'ennemi est là.
Vous ne me touchez pas.
Mobilisation générale.
Sans nous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Radio sans nous.
C'est nous.
Radio sans nous.
Radio sans nous, on continue avec la lecture du livre Jeunesse Chemin.
Chemin. Chez moi, ma maison, des militaires, de nouveaux chefs. Manifestation, des colères.
Non.
La police. La guerre, les bombes. Plus de maison, plus de chez moi. Le départ, la fuite, une marche, une longue marche. Des frontières. Des tentes, un camp, chez moi. La police encore. Perdu, pas la bienvenue. Toujours pas chez moi. Pas le choix, ça le sera. Titouan le calvar.
On est là pourquoi ?
Radio sans nous. Radio sans nous. Une radio sans humain, mais pas sans humanité.
Podcast et programme des émissions sur le blog de CMEA covid19.cmea-pdll.org.
Radio sans nom, l'émission du midi continue. On va maintenant passer à un extrait de l'heure du thé. Alors, vous pouvez écouter l'heure du thé sur radioorageuse.net. Le descriptif est le suivant. À tous les tordus de la normalité, la constellation de notre monde est incommensurable. Nos liens tissés et brinque-ballants nous aideront à apprivoiser nos dons dangereux. Nos réalités dépassent vos normes, vos cases, vos murs, vos bouches. Voilà, donc l'heure du thé, une petite écoute là pour une demi-heure et puis qui peut nous aider à continuer à réfléchir aux espaces dans lesquels qu'on partage dans les vies de tous les jours et à comment est-ce qu'on peut les adapter pour que chacun, chacune puisse trouver sa place. Voilà, bonne écoute.
Le temps, qu'est-ce que le temps?
Non, je n'ai pas le temps. Salut, au revoir. Je suis en retard.
Tiens, le lapin blanc.
Oh, je suis en retard, affreusement en retard.
Si vous croyez que ça m'étonne, votre horloge est détraquée, elle retarde de 2 jours.
De 2 jours?
2 jours et 10 secondes. Oh, malheur. Mais nous allons arranger ça. Rien d'étonnant. Cette mécanique est pleine de mauvaises dents.
Oh, ma pauvre montre.
Et de vite.
Oh, mes roues. Les ressorts. Attends.
Bien sûr, c'est évident, il faut du beurre. Du beurre. Du beurre, oh, il n'y a rien de meilleur pour les rouages.
Du beurre. Ah non, vous allez y mettre des miettes.
Oh, celui-là est garanti sans miettes. Qu'est-ce que vous disiez, mon cher?
Du thé,
je n'y avais pas songé. Bien sûr, il faut du thé.
Ah non, pas de thé.
Du sucre, deux cuillerées seulement, je vous remercie.
Ah, écoutez, faites attention à maman, je vous en supplie.
Confiture. J'oublie la confiture, un oubli regrettable.
Non.
C'est comme ça qu'arrivent les accidents.
Moutarde, oui.
Moutarde?
Ne soyez pas ridicule. Un petit tronc, c'est différent. Maintenant, elle doit marcher. Regardez ça!
Elle devient folle!
Oh, miséricorde!
Monseigneur!
Elle est folle!
Oh, je veux cette épreuve!
Une monteur de première qualité!
Montre folle!
Ah, le thé! Vous croyez que c'est le thé? Je parie qu'il est d'être fort!
Il n'y a qu'un moyen d'arrêter une montre folle!
Bienvenue à l'heure du thé. Il est pas 18h, normalement je commençais à 18h, mais là pour le coup on est en retard, comme dit le jingle. Du coup, on est sur la locale à Saint-Girons en direct, 97.3. Et c'est ma deuxième émission. Moi, je suis Léo. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de miettes, de gâteaux à la framboise, qui m'accompagne et qui accompagne le thé, qui va nous prêter sa voix et qui a préparé l'émission avec moi. Bonjour Miette.
Bonjour. Et aujourd'hui, on a avec nous plein d'objets magiques. Alors déjà, on a une théière avec du thé super bon, deux jolies tasses avec des anses. Non, il y en a une qui n'a pas d'anse. Un cubicube, une plume, du bois flotté, un mini zèbre, des bras de poupée, une bobine de fil, la lune en lampe de poche, la lune encore, les astres, un dénapron, une bougie qui est allumée. Voilà.
Et on a aussi Karine qui nous fait la technique. Merci. À travers sa vitre et qui nous fait des sourires. Et ben on va commencer, on va rentrer dans le sujet, on va balancer de la punchline. Ah, il y a Miette qui me fait un petit signe de Miette pour me dire qu'on a aussi des petits cookies au chocolat et une petite loupe.
Et des cigarettes.
Et oui, des cigarettes. Et du coup, on balance de la phrase, on ouais. y va. Alors, c'est un petit échantillon de belles perles, qu'on a vécues, soit qu'on a entendu, soit qu'on nous a rapporté. Et c'est une introduction à l'émission et à ce qui va suivre pour un peu réveiller les personnes, les mettre dans l'ambiance sur des bribes de nos réalités, sur qu'est-ce que c'est de vivre dans une société qui est psychophobe, et puis aussi, pas forcément que la société, mais aussi de personnes entourées qui peuvent être nos proches, et qui peuvent aussi avoir parfois des comportements pas cool par rapport à nos fonctionnements différents. On y va, on vous balance les phrases qu'on a entendues.
Durant une rencontre féministe, une personne a proclamé: on va pas niveler vers le bas quand même.
Une deuxième: faut te sortir les doigts du cul.
Une autre: ouais, mais de toute façon, en ce moment, c'est la mode d'être fou, psychiatrisé. Une soi-disant amie.
Une personne qui se proclame militante et féministe, qui dit « les neurodivergences, ça n'existe pas hein. ».
Une personne dit « c'est pas aux autres de s'adapter, c'est à toi de faire des efforts ».
Là, c'était une personne proche, plutôt qui devrait être au courant des fonctionnements différents et qui, face à une grosse crise de panique où on n'arrive plus à respirer, où on pleure, où on a l'impression qu'on va mourir, sa réaction, ça a été de dire à la personne « Mais c'est une vraie crise d'angoisse, là, que tu fais ou bien tu joues la comédie ?»
Une autre situation. Donc c'était pendant les manifestations contre la loi du travail. Je suis seule dans la cuisine, dans le lieu collectif, en train de faire des crêpes. Il y a tout le monde qui se prépare pour aller à la manif. Moi, j'y vais pas. Je fais des crêpes. Et seule dans cette cuisine, mais une personne, alors que j'étais à côté, dit tout haut, « Bah, la ville, elle va pas se bloquer toute seule !»
Alors là, on en a une pas mal sur un autre registre. Si tu vas pas bien, c'est que tu baisses pas.
Rendez-vous avec un médecin psychiatre. À l'hôpital. Moi, j'ai l'impression de mieux prendre soin de moi en ce moment. J'arrive parfois à courir les matins. Le psychiatre: vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tant que vous prendrez pas des neuroleptiques. C'est de la maltraitance que vous vous faites subir. Et c'est pas prendre soin de vous.
Donc une personne qui dit « Ah, je vais vraiment pas bien en ce moment, je suis déprimée. » Et un ami qui lui répond: Ah bah, t'as de la chance, hein. Quand on se lève tous les matins pour aller bosser, on n'a pas le temps de déprimer, hein.
Une autre. Un jour, après plusieurs jours de crise, j'explique, slash, je fais mon coming out de neurodivergente à une de mes cohabitantes. Elle me répond. Ah, c'est pour ça que tu parles bizarre alors ?
Écrit par le collectif Fou Folle et créé par des personnes concernées par la santé mentale et ou la psychiatrie. Et Yael se présente en disant « C'est un zine fabriqué par une dizaine de personnes psychiatrisées, étiquetées Fou Folle au quotidien. Nous avons commencé à nous réunir parce que nous ressentions le besoin de nous entraider, nous soutenir et mettre en évidence par des actions, des discussions, des créations, les différentes formes d'oppression auxquelles nous sommes confrontés. Et du coup, elles s'organisent en non-mixité et elles font aussi du soutien, des partages d'outils, d'expériences, des actions, un réseau d'entraide et plein d'autres choses. Et du coup, pour télécharger cette brochure ou même pour la lire sur Internet et pour voir la présentation, vous pouvez aller sur le super site qui s'appelle zinzinzine.net. Donc c'est Z-I-N-Z-I-N-Z-I-N-E.net dans la rubrique auto-organisation des psychiatrisés. Et vous allez trouver la brochure. Et aussi, vous pouvez leur écrire à l'adresse foufolle@riseup.net, fou F-O-U point F-O-U-L arrobase R-I-S-E-U-P point net, N-E-T. On va lire du coup un passage un peu long qui aborde plein d'aspects et notamment le capacitisme et la psychophobie ordinaire du milieu libertaire et militant. Je vais juste définir quelques mots avant pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. Donc, ils vont utiliser le mot capacitisme et ils le définissent comme une oppression systémique subie par les personnes concernées par la santé mentale et ou vivant avec ce que la norme appelle un handicap. Ensuite, la personne, elle va parler de neuroatypie. Pour la petite explication, la neuroatypie, au départ, c'est des personnes autistes qui ont commencé par faire une définition humoristique de la neurotypie, pour qualifier les personnes qui ne sont pas atteintes par des troubles autistiques. Maintenant, ce mot neuroatypie, il peut être utilisé par des personnes qui se définissent en dehors de la neurotypie. Et après, ces termes, neuroatypie, neurodivergence, psychiatrisé, psychiatrisable, etc., c'est des termes qui sont en réflexion, en discussion entre personnes concernées. Donc on vous donne cette explication qu'on a formulée un petit peu là, mais elle est, pour y voir un petit peu plus clair dans le texte, mais elle n'est pas universelle, c'est complexe. Et ça mériterait une ou plusieurs émissions juste sur ce sujet. Enfin, cette personne, elle parle du milieu militant. Ça fait écho à nos vies, mais je pense qu'il peut carrément être calqué à d'autres situations et d'autres sphères plus classiques comme le travail ou la famille ou autre. Donc on va commencer le texte.
Ceci est un fragment de notre réalité, capacitisme et psychophobie ordinaire du milieu libertaire, slash militant. Les parties en italique se réfèrent à de réels échanges. Dans les milieux libertaires, la lutte anti-validiste, anti-capacitiste, alterpsy est terriblement invisibilisée et méconnue. Combien de nos proches, entre guillemets politisés, croyez encore que l'antipsychiatrie suffit réellement à la lutte des personnes psychiatrisées ou concernées par la santé mentale? Voilà pourquoi la lutte des fous et des folles, des neuroatypiques et neurodivergents, neurodivergentes, doivent être communiquées, partagées, discutées et entendues par les personnes non concernées qui perpétuent souvent, à l'intérieur des milieux dits libertaires, les oppressions psychophobes. J'écris ce texte à la première personne concernée. Il est impulsif, imparfait et il ne présente absolument pas tous les quotidiens de neuroatypiques, puisque nos folies sont diverses et variées. J'ai seulement essayé d'explorer quelques trucs que moi, une personne neuroatypique, parmi d'autres, considère comme pas super chouette, voire vraiment grave. Parce que j'en ai assez de ne trouver compréhension qu'entre pairs. Cet article est destiné aux potes non concernés, rédigé avec amour et colère, à 4h37 du matin avec un chat sur mes genoux pour la petite histoire.
Normes de socialisation et de militance capacitiste. Les canaux de socialisation restent encore très normés dans les milieux militants.
On se rencontre en faisant la fête, en buvant des bières, en allant à des rencontres ou à des événements. Aucun espace n'est pensé avec bienveillance proactive. Pas la bienveillance théorique qui est souvent là pour décorer. Ni inclusion pour les fous folles et neuroatypiques. Pratiquement aucun lieu n'est aménagé pour, par exemple, les personnes perturbées par trop de bruit, de lumière, par trop de monde, qui devront simplement subir si elles arrivent à venir et récupérer par la suite en huis clos. Très peu d'espaces sont accessibles en chaise roulante. Aucune safe room, ni mad room, ni cocon tout doux pour prendre soin de soi, à disposition, ne permet de s'isoler pour se rouler par terre ou gérer une crise d'angoisse ou une crise psychotique si besoin. Ce n'est pas juste pour faire joli. Moi, en tout cas, je les utiliserais, les mad rooms ou les cocons, s'il y en avait. De connaître leur existence rendrait carrément envisageable l'idée d'aller à tel ou tel événement. Pour amener la légitimité des luttes contre la psychophobie, peut-être faut-il illustrer les quotidiens des personnes concernées, esquisser quelques miettes de ce qui constitue le spectre de leurs difficultés et particularités. Oui, on peut avoir une crise d'angoisse sans raison apparente. On peut avoir des hallucinations pendant que vous nous parlez de votre soirée d'hier, ou ne plus savoir si on est en dedans, en dehors, ou carrément à 3 mètres sur la gauche de son propre corps, pendant que vous nous servez du thé. Pendant une réu, nous pouvons avoir envie de nous ouvrir le ventre avec ce ciseau, là, oui, posé sur la table, parce que le tour de parole est trop angoissant. Pendant que nous donnons notre avis sur tel ou tel point de l'ordre du jour, nous pouvons être en train de retenir nos larmes ou notre nausée de toutes nos forces, pour la 20e fois de la journée, et se jurer de ne plus jamais ressortir de sous nos couvertures. Nos détresses et folies ne sont pas toujours visibles, pas toujours spectaculaires. Et quand bien même elles le seraient, elles sont légitimes. Elles font partie de notre réalité. Ceci est un fragment de ma réalité. Alors bien sûr, quand on est non concerné, on ne se rend pas forcément compte de ces enjeux-là. Et pourquoi s'embêter à être inclusif, inclusive, et proposer des espaces ou des formes de socialisation différentes? Parce que être inclusif, ça demande du temps, de l'implication, il y a d'autres trucs à faire. Du coup, beaucoup de fous folles sont isolés ou se font violence. Et cela contribue à l'idée que les terrains de socialisation appartiennent aux personnes socialement fonctionnelles, à minima, et cristallisent une injonction à l'assimilation que les fous folles vivent déjà au quotidien.
Travail d'assimilation. Il y a un travail invisible que les personnes valides et capables ne prennent pas en compte lorsqu'elles proposent des activités publiques ou militantes. Une personne concernée par la santé mentale doit fournir un travail d'assimilation lorsqu'elle souhaite et essaye de participer à des activités militantes ou sociales. Ce travail d'assimilation demande beaucoup d'énergie, de stratégie, de survie en milieu capacitiste. Cela nécessitera un temps de récupération post-activité qui sera considérable. Ou comment une réu ou une projection peut angoisser pendant 3 jours avant la date prévue et clouer au lit pendant les 5 jours suivants. Encore un fragment de ma réalité. Le chat sur mes genoux ronronne à pleine turbine. Je le gratouille et je continue. C'est justement autour de cette notion de travail d'assimilation que les personnes non concernées peuvent réellement devenir des potes / proches inclusifs, inclusives, qui elles peuvent limiter le travail d'assimilation d'une personne concernée en faisant pour une fois elle-même une assimilation non plus à la norme neurotypique et valide, mais en envisageant les altères réalités des fous, et des folles. Parce que ce travail d'assimilation est un travail à 100% que nous portons depuis la naissance bien souvent. Les personnes psychiatrisées doivent fournir des efforts, reçoivent des injonctions à la normalisation et à l'adaptation de toutes parts. Dans la famille, dans les études, au travail, avec leurs amis, si elles en ont, par la médecine et la psychiatrie. Alors oui, on prend des médocs, faute d'alternatives, par choix, nécessité. Et encore, tout cela, si on a de quoi se les payer. Mais je vous assure, certains, certaines préféraient, si cela nous était possible, de ne pas prendre des médocs, d'éviter d'avoir pour seconde maison un hôpital psychiatrique ou un cabinet de psychiatre, et de vivre dans des sociétés où des espaces nous permettent d'apprivoiser nos folies slash troubles slash conditions, plutôt que de devoir les museler, les rendre invisibles pour le confort des autres, les oublier. Parfois, les psys nous disent, pendant des années, « Il faudra prendre ces médocs toute votre vie » ou « Ce trouble est incurable, c'est votre condition de vie » parce que nous sommes fous, folles, irrécupérables, mais surtout parce que nous vivons dans un monde qui n'autorise pas cette folie, qu'il faut cacher et cantonner, qui dérange. Parce que ce soit clair, les violences liées à la santé mentale ne sont pas cantonnées aux hôpitaux psy et aux psychiatres. Elles prennent une multitude de formes. Je me souviens de façon très tangible du jour où j'ai réalisé que derrière les murs perméables de mon petit cocon entre guillemets safe, des milieux militants féministes, anarchistes et ainsi de suite, je retrouvais les mêmes violences vécues à l'hôpital, entendais les mêmes propos de certains, certaines psychiatres, les mêmes violences exacerbées par la sensation de surprise due à la différence de contexte. Un espace peut devenir accessible aux personnes en chaise roulante en installant une rampe, installer des rampes sérieusement et en faisant de l'espace pour circuler. Ces mêmes espaces peuvent également devenir inclusifs et accessibles aux personnes neuroatypiques. De façon imagée, en installant une sorte de rampe leur permettant d'accéder au lieu et en faisant de l'espace pour leur réalité de fou et de folle. Quelle forme cette inclusivité pourrait-elle prendre? Par exemple, en redistribuant l'espace de parole, en proposant une verbalisation de ces enjeux-là, en aménageant des lieux permettant de s'isoler et uniquement destinés à cet effet, même en canapé réservé, s'il n'y a pas plein de pièces à dispo. En questionnant les participantes d'une activité pour leur demander si elles ont des particularités qui nécessitent certains aménagements. Bref, tout simplement en cessant de partir du principe que si quelqu'un, quelqu'une est présente, c'est qui elle est capable et que les personnes présentes se trouvent forcément dans leur zone de confort.
Être inclusif, c'est aussi diversifier les modes d'action et les activités. Si une personne neuroatypique désire participer à une réu qui prévoit des actions politiques contre ou pour X ou Y, ne proposez pas uniquement des actions qui demandent d'être capable. Parce que parler en public, crier, courir, ce n'est pas acquis ni possible pour chacun chacune. Et ne déléguez pas systématiquement aux personnes qui ne se sentent pas de le faire des tâches moins valorisées, moins visibilisantes. Alors, tu peux faire des photocopiers, tu peux prendre le PV, tu peux faire le ménage. Parce qu'il s'agit d'une stratégie qui semble a priori bienveillante et inclusive, on est d'accord, ce genre de tâches ne sont aucunement moins importantes que les autres, mais elles se passent dans les coulisses, en quelque sorte. Mais qui, à force de répétition, contribue à entériner la fracture valide-invalide et capable-incapable.
il n'existe pas qu'une unique sorte d'agir. L'action directe étant survalorisée, relaye donc forcément les autres types d'implications à un second plan, prétendument moins radical, moins efficace et donc moins important. Il y a donc de réels enjeux liés à la valorisation, l'appréciation des personnes en fonction de leur mode opératoire militant, divisant les personnes entre les plus impliquées et les moins impliquées, en fonction de leur capacité à agir. On touche bien au capacitisme ici. Dans cet exemple, c'est le mode opératoire de la militance qui est observé. Mais si nous nous interrogeons sur la fréquence militante, les mêmes logiques semblent s'appliquer. Une personne ayant placé sa militance comme l'épicentre de sa vie, depuis laquelle ses activités graviteront, sera toujours plus valorisée qu'une personne fou-folle, ne pouvant techniquement pas vivre en totale abnégation pour les luttes. Cela ne veut pas dire que cette militance est moins importante, mais plutôt que l'énergie disponible est intrinsèquement différente chez une personne neuroatypique avec une personne en comparaison avec une personne neurotypique. J'ai vécu avec des militants militantes passant leur journée à rédiger des articles, faire de la traduction de brochures, à préparer des actions, se rendant à plusieurs réunions par semaine, etc. Et qui, en plus de tout ça, arrivaient à maintenir une vie sociale riche. C'est super pour elle, vraiment. Mais quand lire un article de temps en temps peut parfois représenter mon maximum et que je dois gérer mes rendez-vous à l'hosto et mes crises, il s'agit bien d'une sorte de violence quand je reçois régulièrement des « rappels à l'ordre » à demi-mot. Parce que, quand même, t'aurais pu venir à telle réu. Ou que ma légitimité dans les cercles militants est remise en cause pour faute de productivité ou de présence. Avec créativité, il est possible et nécessaire d'inclure tout le monde, valide, invalide, fou, folle, concerné ou non concerné par la santé mentale. Trouver aussi d'autres formes d'organisation, parce que la prise de parole verbale ne convient pas à tout le monde. Entre parenthèses, signe, écriture, trois petits points. Alors parfois, on me dit que tous ces aménagements semblent compliqués, que cela demande une énergie qui pourrait être dépensée pour autre chose de plus concret. Moi, je me dis à moi-même, avec timidité, que c'est avec ce genre de stratégie de pensée qu'on cristallise les oppressions, qu'on entretient les privilèges et qu'on perpétue les rapports de domination à l'intérieur de nos réseaux déconstruits, pseudo-bienveillants.
Quand l'antipsychiatrie devient un faux ami. Un jour, je n'ai pas pu me rendre à la réu hebdomadaire de mon collectif d'habitation parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital psychiatrique. On m'a dit « Ah, tu vas voir des psychiatres ? C'est pas un peu collabo, du système, si ça ?» J'ai fini ma clope et je suis partie m'effondrer dans ma chambre. Le capacitisme est une oppression systémique à l'intérieur et à l'extérieur et à l'intérieur des milieux militants. Et puis, l'intime est politique. Ça fait du bien de se le rappeler. Souvent, le principal défaut de l'antipsychiatrie est de déplacer le curseur politique sur l'institution et non plus sur les personnes concernées, qui sont les seules à réellement pouvoir se positionner sur les questions liées à la psychiatrie et ses usagers. L'alterpsychiatrie serait donc une position esquissée à mi-chemin entre l'antipsychiatrie et l'utilisation subie, choisie ou nécessaire du système psychiatrique. Oui, certains d'entre nous prennent des médocs. Certaines connaissent les hospitalisations subies ou choisies. Certaines voient des psychiatres. Et encore, cela n'est pas accessible à chacun, chacune.
Nous articulons nos luttes depuis cette position complexe où nous avons besoin, faute d'alternative, d'un système-ci contre lequel nous nous battons, parce que survivre nous permet d'amener une critique sur ces oppressions. Nos mots jusque dans vos mots. Tout un vocabulaire psychophobe et oppressant est utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur des sphères politisées. Pourquoi les insultes validistes et psychophobes restent-elles encore tolérées? Non, autiste n'est pas synonyme de asocial. Et dire « je m'enferme dans ma chambre car j'ai la gueule de bois, je fais mon autiste », c'est oppressant pour les concernés et clairement une phrase que probablement tout le monde, sauf les personnes se trouvant sur le spectre de l'autisme, pourrait dire. Anorexique ne veut pas dire très maigre et n'est pas une description d'une allure physique, mais d'un comportement douloureux et complexe. Une crise de boulimie n'est pas une grosse bouffe entre potes où l'on mange trop. Dépressif, dépressive n'est pas un synonyme de triste ni de mélancolique. Taré, fou, folle, parano, triso, cinglé, mongol, psycho, schizo, mytho, et ainsi de suite ne sont ni des adjectifs, ni des insultes, mais des conditions et des particularités. Faut-il vraiment rappeler que beaucoup de neuroatypicité, neurodivergence, conditions ou particularités ne sont pas forcément si visibles que ça, et qu'à chaque fois que ces mots sont utilisés comme insultes ou des adjectifs détournés, quelqu'un, quelqu'une, présent, présente, est potentiellement oppressé ou insulté? Oui, il faut vraiment le répéter. Arrêtez de le faire, vraiment, une fois pour toutes. On vous entend. Merci, parce que ceci est un fragment de notre réalité.
Le fameux « tout le monde est fou, folle ». Un autre réflexe qui apparaît 9 fois sur 10 lorsqu'une personne concernée par la santé mentale tente de faire entendre à son entourage que ses particularités nécessitent des aménagements, ou simplement lorsque celle-ci les évoque, c'est de recevoir pour seule réponse « Ah, mais moi aussi j'ai vu un psy une fois. » Et surtout « Non, mais tout le monde est un peu fou ou folle. Il n'y a personne de totalement normal. » C'est un peu comme dire « Moi aussi, j'écoute cette chanson-là, et plein de personnes l'écoutent aussi des fois hein, à quelqu'un, quelqu'une, qui, sans l'avoir choisi, ne peut écouter uniquement que cette chanson-là, à longueur de journée, sans répit possible, et doit gérer son quotidien avec ce bruit de fond incessant. Et tout ce qu'elle pourra dire sera toujours entendu comme la mélodie de cette chanson. Tout ce qu'elle entendra, fera, vivra, pensera, sera fait avec cette bande sonore-là, sans autre option possible. Oui, parfois, tu écoutes cette chanson-là toi aussi, ou les autres personnes dont tu parles. Mais la totalité de ta vie tourne-t-elle autour de cette chanson imposée, hein? Alors oui, certes, la folie et la santé mentale représentent un prisme complexe, de même que la prétendue normalité. Et de très nombreuses personnes qui semblent peut-être non concernés, le sont probablement. C'est ici une conséquence directe de l'invisibilisation et de la culture de la honte qui englobe les neurodivergences et la folie. Ces personnes-là, qui n'ont en quelque sorte pas encore fait leur coming out neuroatypique, par choix ou pour une autre raison, sont elles aussi concernées par les oppressions psychophobes. Évidemment. Et comme certaines folles ne sont pas visibles. Parfois, on ne peut pas savoir qu'une personne concernée l'est. Ce flou rejoint une autre complexité, celle des personnes concernées par la folie, qui peuvent évidemment elles-mêmes adopter des comportements psychophobes ou capacitistes. Il n'y a pas deux pôles, personne saine, personne folle, et symétriquement, personne capacitiste, personne oppressée. Le capacitisme, à l'interne des sphères neuroatypiques, est encore un autre sujet sur lequel nous tentons de travailler entre nous, tant bien que mal.
Cependant, il y a une différence entre le fait de se réclamer concerné par une oppression et le fait de normaliser l'oppression, en affirmant que tout le monde est concerné, de base, donc que cette oppression n'existe tout simplement pas, et qu'une telle différenciation, être capable / incapable, est encombrante, voire carrément inutile. En militant contre la psychophobie, on ne vous dit pas que vous ne serez jamais peut-être concerné. On ne minimise pas vos détresses, vos difficultés, vos états d'âme, vos expériences. On ne veut pas les invalider. Simplement, il y a une différence, non pas symbolique, mais tangible, au quotidien, entre le spectre des émotions / des comportements / des vécus possiblement, entre guillemets, attendus et donc socialement tolérés chez une personne et les maladies, certaines conditions neurodivergentes ou les troubles psychiatriques institutionnalisés qui génèrent de fait un chapelet d'oppression, rien que par leur dénomination. Alors quand vous n'êtes pas neuroatypique, cela ne veut pas dire que vous avez une belle vie simple et merveilleuse, et ce n'est pas mon propos. Ici, le propos est bien celui-ci. En tant que neuroatypique, la vie tourne autour de la folie. Des soins psychiatriques imposés, choisis ou nécessaires, des soins manquants lorsqu'inaccessibles, des rappels incessants qui tentent de transformer nos difficultés et nos particularités en, entre guillemets, dysfonctionnalités. Et tout s'articule à chaque moment autour de ces particularités et ces difficultés. Tout se fabrique depuis ce socle qui justifie des oppressions tant systémiques qu'interpersonnelles. Alors oui, tout le monde est différent. Évidemment, et oui, tout le monde peut tenir des propos psychophobes ou avoir des comportements capacitistes, mais non, tout le monde n'est pas un peu fou ou un peu folle, sous prétexte d'un amalgame entre neuroatypie / folle et, entre guillemets, singularité, propre à chacun, chacune. Pour terminer ce texte, écrit lors d'une nuit d'insomnie et d'un gros ras-le-bol tout moisi, voici en quelques mots toujours silencieux et retenus, mais aujourd'hui, osé, en parenthèse, oser, pas forcément assumer ni apprécier, d'où je parle. Une personne neuroatypique, estampillée et labellisée par des psychiatres et des sobriquets suivants. TED, trouble envahissant du développement, syndrome Asperger. Dépressif chronique avec comorbidité, trouble anxieux, paroxystique, invalidant et suicidalité. Trouble dissociatif avec crise de dépersonnalisation et de déréalisation. TOC. Trouble obsessionnel compulsif. PTSD et, entre guillemets, trouble compulsif alimentaire à caractère inconnu. Et le texte se termine avec force et douceur, des cœurs et un petit éclair.
Voilà, on vient d'écouter un extrait de L'heure du thé. L'émission est trouvable sur le site de Radio Rageuse, radiorageuse.net au pluriel. Pas net, mais Radio Rageuse. Voilà, on continue l'émission du midi.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi. Envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous, crieur public, petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Mais l'ennemi est là.
Vous ne me touchez pas.
Mobilisation générale.
Sans nous.
Nous sommes en guerre.
Sans nous.
Radio sans nous.
C'est nous.
Radio sans nous.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Passage d'information, petite annonce, coup de gueule, défi. Envoie un mail sur radio.sansnous@cma-pdll.org et on le lira.
Radio sans nous. Crieur public. Petite annonce.
Tous les jours à 12h30 ou à 19h45.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Alors, pas beaucoup d'annonces aujourd'hui. On a juste une annonce commune de Liz London, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Philippe Deschartes, Stéphane Essel, Maurice Kriegel, Georges Chégui et Maurice Voutet. Je les laisse parler.
Résister, c'est créer.
Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération, nous, vétérans de mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle.
60 ans plus tard, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la résistance et des nations unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre colère contre l'injustice est toujours intacte.
Nous appelons, en conscience, à célébrer l'actualité de la résistance, non pas au profit de causes partisanes, mais pour proposer aux générations qui nous succéderont d'accomplir trois gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais.
Nous appelons d'abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs, les citoyens, les exploités, les humiliés à célébrer ensemble l'anniversaire du programme du Conseil national de la résistance adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 et qui préparait
la sécurité sociale et les retraites généralisées, le contrôle des féodalités économiques, le droit à la culture et à l'éducation pour tous, une presse délivrée de l'argent et de la corruption, des lois sociales, ouvrières, agricoles, etc.
Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie.
Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à dépasser les enjeux sectoriels et à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et des conflits sociaux. Nous les appelons à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance, de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales.
Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens, les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse. Ils ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous.
Nous n'acceptons pas que les principaux médias soient désormais contrôlés par des intérêts privés, contrairement au programme du Conseil national de la Résistance et aux ordonnances sur la presse de 1944.
Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, résister c'est créer, créer c'est résister.
Vous écrivez et nous crions pour vous.
Radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous.
Donne-moi ta main.
Vous écoutez Radio Sans Nous. Radio Sans Nous, la radio qui émet en direct, mais pas du même salon. C'est une radio qui fonctionne grâce à un salon virtuel. On n'est pas ensemble, mais on essaye de parler ensemble dans vos oreilles.
Mais oui, l'école est finie.
Radio Sans Nous, une radio créée par des militants et des militantes des CMEA Pays de la Loire, qui est ouverte à toutes les personnes qui auraient envie de nous envoyer du son. Vous pouvez nous écrire sur radio.sansnous, S-A-N-S-N-O-U-S, at CEMEA-PDLL, comme pays de la Loire.org. Vous pouvez discuter avec nous sur notre chat, sur chat comme un chat, chat.koumbit.net, sur le canal hashtag Radio Sans Nous.
On s'amusera, quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie.
Retrouvez toutes les informations et les podcasts de Radio Sans Nous sur covid19.cmea-pdll.org. Tous les soirs à 20h, on vous lit une histoire et on vous présente un jeu. Le mardi et le vendredi à 19h, on chante avec vous. Et le jeudi et le dimanche à 16h, c'est la tournée générale. On vous invite à nous écouter pour notre émission généraliste. Tous les midis, c'est la criée. On crie et on lit des textes et des petits messages que vous nous auriez envoyés sur le chat ou par mail. Et puis on enchaîne avec un livre humain, une histoire de vie qui nous est contée dans nos oreilles. Et le jeudi soir, tous les jeudis soirs sur Radio Sans Nous, c'est scène ouverte. Bientôt, de nouvelles programmations sur covid19.cemea-pdll.org.